Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour aux leftos qui nous écoutent à la radio, ainsi qu'aux fidèles de plus en plus nombreux qui s'abonnent au podcast de l'émission. Bienvenue à tous dans le Réveil Culturel. Le vendredi, c'est l'actualité de la bande dessinée et des romans graphiques. Et aujourd'hui, je vous recommande un petit bijou qui se mérite, De la Vierge à Vénus, du peintre et dessinateur Patrick Chombon, édité aux Impressions Nouvelles. C'est une petite histoire de la peinture occidentale en quelque sorte, et des représentations du corps féminin de la Vierge à Vénus, comme l'indique le titre de ce très beau livre.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Patrick Chombon.
Bonjour.
Alors quand on dit bande dessinée, ça se présente comme une bande dessinée avec des dessins, du texte, chaque page de dessin. Mais en fait, c'est une petite histoire de la peinture occidentale et plus précisément de la représentation du corps féminin.
Oui, c'est ça. Alors une bande dessinée, effectivement, le terme est un petit peu... À argumenter, parce que c'est un travail que j'essaye d'approcher le plus possible du tableau. Donc la page est divisée en quatre cadres de manière répétitive. Donc
la double page,
la double page, oui.
Donc chaque page de cadre.
Donc il y a un aspect comme ça où j'ai vraiment voulu m'approcher le plus près du tableau, avec une division qui suit un petit peu le déroulement narratif, mais c'est justement en m'éloignant le plus possible du gaufrier de la bande dessinée, j'essaye de faire un travail qui est plus près de la picturalité principalement du déroulement narratif de la bande dessinée. Mais
une petite histoire, donc je disais de cette peinture occidentale. Vous appuyez beaucoup sur les réflexions et les textes d'un historien que je connaissais pas, un historien de l'art et philosophe, Jean-Marie Pantévia.
Oui,
principalement.
C'est une découverte de mes années d'études aux Beaux-Arts, justement, et c'est un texte qui m'a tout de suite fasciné. Donc, j'ai, comme pour mes précédents travaux graphiques, j'ai vraiment eu envie de mettre ça en image. Parce que Pontevia aussi, c'était quelqu'un qui a fait des conférences et qui s'appuyait sur les images de l'histoire de l'art. Donc j'ai remis la réflexion de Pontevia justement dans un cadre de l'image, où justement on n'a pas assez, je trouve, de travaux théoriques ou bien en histoire de l'art ou en philosophie ou même en littérature qui passent principalement par l'image. Donc c'est ce que j'ai voulu remettre en avant, c'est l'image avant même le texte, bien qu'il y ait un rapport des deux, si vous voulez.
Que raconte votre livre De la Vierge à Vénus?
Alors en fait, c'est
l'histoire d'une évolution.
Cette histoire
de plusieurs évolutions, d'ailleurs.
Oui, c'est assez fascinant. C'est en fait l'histoire d'un dévoilement progressif. Donc, on part de cet événement un peu inaugural qui est l'arrivée qui va occuper comme ça plusieurs siècles, l'arrivée massive de la représentation de la Vierge Marie, qui est donc, Pontévia rappelle que c'est donc aussi un mystère et une contradiction, puisqu'il y a un rapport entre la virginité et la maternité qui va justement occuper les peintres pendant plusieurs siècles et faire que la figure de la Vierge soit extrêmement montré et soit un objet devienne l'objet du désir de la peinture,
ouais,
si vous voulez.
Parce qu'elle va être de plus en plus dénudée.
Parce que justement, il va y avoir ce processus lent dans l'histoire qui va être que la Vierge va se dévoiler progressivement en donnant le sein à son enfant, à Jésus. Donc il va y avoir un dévoilement, les peintres vont la dévoiler progressivement. Vous voyez, on va quitter le hiératisme byzantin des maestas et de Duce ou de Cimabue, de gens comme ça qui viennent un peu de l'espace byzantin, mais pour lentement dévoiler la Vierge et justement faire qu'il y ait une filiation profane à partir
parce que
de la Vierge.
Parce que vous racontez aussi cette autre évolution du sacré au profane,
oui.
Et tout ça à travers les tableaux, à travers les chefs-d'œuvre,
oui.
Que vous redessinez.
Ah oui, bien sûr, ça.
Que vous représentez au fusain, d'ailleurs.
L'enjeu du travail, ça a été effectivement de me confronter à l'histoire de l'art et notamment à l'histoire de ces grands chefs-d'œuvre qu'on retrouve partout dans mon grands livres que sont Botticelli, Titien,
le Caravage, jusqu'à Courbet bien sûr,
Gréco, Courbet, Degas, enfin tout un tas de peintres qui ont justement qui se sont confrontés à la question de l'objet du désir qu'est la femme nue, la femme qui va être dévoilée progressivement à partir du Quattrocento, justement avec l'arrivée de la Vénus, l'arrivée de la Vénus de Botticelli notamment, et celle du Titien, va y avoir vraiment une rupture radicale. Et là, ça va justement ouvrir, faire proliférer des figures féminines comme Suzanne et les vieillards, Diane surprise au bain, voyez, toute une série comme ça de figures féminines, les Bethsabée, les Judith, les Salomé, enfin, de manière très différente, mais c'est cet événement inaugural qui est la Vierge Mère, qui représente justement cet amour fou l'amour maternel, va produire justement la libération d'un certain nombre de figures féminines, et notamment donc de la découverte au sens littéral du corps.
Et du corps féminin vu, regardé par les hommes. Ça, oui. C'est très important, Patrick Chambon.
Oui. Alors, justement, ça, c'est un peu l'objet de mon travail. Ça a été de montrer que la figuration de la représentation de la femme va produire un type de spectateur.
De regardeur.
Bon. Mm-hmm. Ce que j'appelle aussi un petit peu le témoin, si vous voulez. Le témoin va être très différent pour la Vénus. Il va être interpellé par le regard de la Vénus d'Urbain, de Titien, par exemple. Mais il va pas du tout être le même pour la Diane, le spectateur va surprendre Diane Aubin. Donc ça va être un regard de surprise, un regard presque qui est une effraction. Avec Suzanne et le vieillard, justement, ces deux vieillards qui scrutent, qui soulèvent un buisson, qui soulèvent un voile. Justement, les peintres mettent en scène, si vous voulez, à l'intérieur du tableau, un type de spectateur et un type de spectacle sur cet objet qui devient un objet majeur, qui est l'objet du désir, sur cette femme qui se dénude et qui est cachée dans la forêt, soit, vous voyez, dans des systèmes un peu de cacher, montrer. C'est ce que toute la peinture va s'employer à faire.
Patrick Chambon, vous êtes peintre et dessinateur, mais là, c'est comme si c'était une étude, hein, où vous alliez aussi bien la théorie, ce que vous avez appris de l'histoire de l'art, parce que là, on a parlé de Jean-Marie Pantevia, mais vous citez bien sûr Daniel Arras, oui, l'inévitable, oui. Bien sûr. Oui. Mais cette histoire de l'art, est-ce qu'elle est personnelle? Par exemple, tous les tableaux que vous avez choisis, c'est des tableaux obligé pour comprendre cette histoire, ou c'est aussi votre choix, Patrick Chambon?
C'est un peu des deux. C'est-à-dire que si vous voulez, dans l'histoire de l'art, il y a des tableaux qui façonnent des jalons incroyables, des moments comme par exemple la Vénus de Botticelli, si vous voulez, qui naît de l'écume des eaux. C'est un moment inaugural dans la peinture, c'est-à-dire Botticelli est le premier qui va libérer un peu le corps de cette manière-là, qui va le montrer quasiment nu. La Vénus de Botticelli met sur son sexe une partie de sa chevelure, mais elle est quasiment nue. Donc ça va produire justement une prolifération après de d'autres Vénus, si vous voulez. La grande Vénus couchée de Titien, c'est les premiers, les Vénitiens, qui vont coucher la Vénus. Bon, Titien étant l'élève de Giorgione, et c'est Giorgione qui va le premier faire une Vénus couchée. Mais la Vénus de Giorgione, elle est endormie, elle est encore dans la nature. Vous voyez, elle est encore dans un petit bain un peu mythologique. Alors que Titien va faire un acte phénoménal, il va mettre une Vénus, elle va être couchée, elle va être sur un lit, et elle va regarder le spectateur. C'est ce que je vous disais, elle va interpeller le spectateur. Ce qui fait que le spectateur n'est plus du tout en position passive d'être un voyeur, d'entrevoir quelque chose. Il est vraiment dans le circuit entre la peinture et le spectacle qui est donné à voir. Donc il est un témoin, si vous voulez. Donc ça va être un jalon extrêmement important dans l'histoire de l'art. Donc à partir de ces jalons, moi, je choisis effectivement un certain nombre d'autres images que je fais rimer avec certains tableaux. Par exemple, vous voyez, bon, moi, je suis très intéressé par la question du montage au sens cinématographique. Donc, il peut y avoir en face d'une Vénus un photogramme d'Eisenstein ou une image qui n'appartient pas au même temps que la Vénus vénitienne. Vous voyez, je peux mettre un Degas à côté. Donc c'est des images que je mets en relation donc dans la formalisation dont je vous parlais tout à l'heure, les quatre tableaux. Je mets en regard une image vis-à-vis de l'autre pour que justement un sens naisse de ce montage. Donc c'est des histoires, c'est une histoire de l'art aussi que j'ai moi dans mon musée imaginaire à moi, si vous voulez.
Vous êtes sur France Culture et je suis en compagnie de Patrick Chambon qui fait le réveil culturel ce matin pour son ouvrage De la Vierge à Vénus, regard sur la femme peinte. Et ça, c'est pas tout à fait une bande dessinée, même si ça y ressemble. C'est pas du tout un livre d'art, même si on pourrait le supposer, parce que vous ne parlez en réalité que de ces 5 siècles de l'histoire de la peinture. C'est entre les deux, c'est ce qui donne justement de l'importance à votre travail, à votre approche, c'est-à-dire reproduire les tableaux, les expliquer, et puis les présenter sous cette forme, c'est-à-dire quelque chose qui, effectivement, rappelle beaucoup la bande dessinée. Alors, cette traversée de 5 siècles de l'histoire de la peinture, vous avez décidé, Patrick Chambon, de la chapitrer. C'est en 7 chapitres.
Oui. Alors vous disiez reproduire des tableaux. C'est pas exactement justement mon travail. Ça a pas été exactement de les
interpréter. C'est-à-dire de reproduire votre regard.
Hein. Oui. Donc je pars sur les grands tableaux. Certains sont très connus, d'autres beaucoup moins. Mais justement, il y a tout un travail de par le noir et blanc qui a été un choix aussi pour mettre en avant la blancheur un peu laiteuse aussi du corps de cette femme qui va au cours des siècles apparaître sous diverses façons. Et puis aussi tout un travail sur le noir et le gris qui me permet aussi de mettre en place toute la question du spectateur, du voyeur qui est souvent inscrit dans le paysage autour de Diane. Diane, de Vénus ou de Suzanne, si vous voulez, qui se cache justement dans la pénombre ou dans l'aspect nocturne du lieu où se produit cette femme qui se baigne ou qui s'endort ou qui est surprise. Voilà. Donc c'est tout un travail aussi à partir de d'images connues, mais c'est un travail de traduction aussi. Et puis je fais tout un travail de cadrage qui fait que ces tableaux très connus parfois apparaissent sous un nouveau jour. Voilà. Alors j'ai effectivement chapitré les choses. Eh bien, en suivant un petit peu le déroulement, si vous voulez, à partir
chronologique. Hein,
oui, une sorte reste, parce ouais. qu'il y a des moments de, si vous voulez, de suspens. Par exemple, un chapitre qui s'appelle l'extase. On est au XVIIe siècle, un grand moment de le moment des dévots, le moment du jansénisme, le moment de la contre-réforme. Donc à ce moment-là, il y a un événement, si vous voulez, sur la représentation du corps de la femme qui s'appelle l'extase et qui est manifeste au niveau de Marie-Madeleine, qui est en pénitence, qui est en prière. Et si vous voulez, dans la représentation que font les peintres de Marie-Madeleine, elle est, comme souvent en pénitence, donc elle découvre sa poitrine, elle est dans un acte de contrition. Donc vous voyez, il y a aussi le langage de la piété, là, rencontre le langage de l'érotisme. Et c'est un moment particulier, donc, de l'histoire. Donc après, je suis des moments chronologiques, oui, plus ou moins importants. Donc on peut passer, il y a le grand moment du 16e avec les Vénus de Titien, mais après, du coup, on va sur la figure de Marie-Madeleine au 17e. Puis alors, le 18e, justement, c'est le moment un peu, les gestes sont des audaces, je dis dans le livre. Donc il y a un moment érotique très particulier où l'aspect, si vous voulez, la perversion a été intégrée, ça devient un jeu. Vous voyez, dans le verrou de Fragonard, le petit marquis repousse la femme, mais elle cherche à ouvrir le verrou. Vous voyez, il y a tout un schéma comme ça qui est presque un jeu, mais en même temps, comme disait Klossowski dans le livre, je l'évoque, un geste qui se défend est aussi un geste qui se dévoile. Donc il y a un moment comme ça. Alors à côté de ce verrou de Fragonard, je mets le petit jeu de l'escarpolette du même Fragonard, où le petit marquis repousse la balancette. Et puis la marquise est là dans le vent avec justement les accessoires de la mobilité qu'appelait Wartburg, c'est-à-dire les voiles sont dans le vent, les chevelures sont un peu dans le vent. Vous voyez, il y a un jeu comme ça qui est très lié au XVIIIe siècle, un jeu entre l'interdit et la possibilité, la défense et la permission. Et puis après, le XIXe, on arrive justement à la représentation. Joue beaucoup sur c'est le moment de l'orientalisme, si vous voulez. C'est le moment où il y a tous ces harems, tous ces bains turcs de dingues.
Les odalisques.
Les odalisques. Et la grande rupture, parce que je parlais de la rupture tout à l'heure avec Titien. Mais justement, Manet fait cette grande rupture avec l'Olympia. L'Olympia, c'est justement une élucubration, c'est une peinture d'après la Vénus de Titien, hein, c'est à partir de ce modèle-là. Donc lui aussi, il prend un modèle d'une peinture dans l'histoire de l'art, Manet, et il en fait l'Olympia. C'est-à-dire que justement, il y a un geste de rupture, si vous voulez, par rapport à toutes les odalisques et à tout ce bain orientaliste du 19e siècle, c'est que Manet, il met sur ce lit cette espèce de petit corps blanc, et c'est sans alibi, ni sans prétexte. Elle est là, cette Olympia de Manet, elle est là sur le lit, et elle va beaucoup choquer parce qu'elle est très obscène, elle est sans alibi, elle est comme une espèce de prostituée qui s'offre au regard, si vous voulez. Voyez ? Alors qu'au même moment, la Vénus de Cabanel ne fera pas scandale, alors qu'elle est beaucoup plus lascive, elle est dans les flots, elle est complètement nue aussi. Vous voyez, donc là on est au 19e, le regard porté sur le corps de la femme change au cours du siècle. Et donc le spectateur aussi, vous voyez, au 19e siècle, on a un type de spectateur qui est plutôt un client, le client d'un bordel qui vient choisir la femme. Donc on a toutes ces scènes de bordel de Degas, par exemple. On a aussi toutes ces scènes d'intimité, de toilette. Mais bon, ça vient beaucoup du 18e siècle aussi, la toilette chez François Boucher, chez des gens comme ça. Mais Degas va faire beaucoup dans ces petites nanas qui sont dans le tube en train de se nettoyer, donc surprise. Mais c'est pas la même surprise, vous voyez, que Diane quand elle est surprise au bain dans la nature. Vous voyez, c'est un peu particulier. Et puis pour suivre ce long cheminement, justement, si vous voulez, ce qui est fascinant dans ce parcours et aussi ce texte, c'est qu'on va se libérer petit à petit de l'objet du désir qui est la représentation de la femme pour arriver à la peinture elle-même qui aura presque digéré, voilà, si vous voulez, le corps.
Mais avant, d'abord, on se libère du sacré. Voilà, parce que vous partez de la Vierge jusqu'à Vénus.
C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une filiation qui devient profane lentement, mais c'est justement à partir de ce moment inaugural de la Vierge Mère, qui est aussi un objet fantasmatique pour le fantasme masculin, si vous voulez. La Vierge Mère, l'amour énorme de cette Vierge Mère, Freud fera le tabou de l'inceste à partir de cette figure, par exemple, si vous voulez. Mais voilà, ça va libérer un certain nombre de figures, et dans l'histoire, je vais passer de siècle en siècle, comme ça, peut-être un peu rapidement, mais c'est aussi l'objet d'un livre, pour arriver justement à cette libération profane ou cette libération laïque où justement la peinture va incorporer cet objet de désir en tant que peinture, si vous voulez. On va arriver à la peinture pure.
Qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériau pour dessiner, parce que chaque page représente deux tableaux ou deux détails ou deux interprétations oui. des grands tableaux de ces 5 siècles de l'histoire de la peinture.
Alors, hormis la couverture, donc c'est un dessin en couleur qui représente un morceau de l'Olympia de Manet derrière la Vierge de Fouquet. J'ai fait tout un travail en noir et blanc, je le disais un petit peu tout à l'heure, à partir de la pierre noire et du fusain et de gomme, parce que justement dans cette revisitation de l'histoire de la peinture, je mets des zones, j'utilise beaucoup l'articulation entre le flou et le net, donc le fusain et la pierre noire me permettent beaucoup ça. C'est-à-dire il y a vraiment certaines zones où je fais une netteté sur un geste, parce que c'est aussi toute une histoire du geste, si vous voulez, ça a un lien, c'est pour ça que la couverture montre ces deux mains qui ne signifie pas la même chose, la main d'Olympia et la main de la Vierge qui tend un voile. Donc il y a toute une gestuelle, moi, que j'isole à partir justement du noir et blanc et du travail sur la pierre noire et le
contenu. Et puis du texte que vous introduisez à la manière là d'une bande dessinée.
Oui, mais en jouant aussi beaucoup avec les phylactères, avec la façon dont je distribue le texte qui vient enrubanner certaines figures entourées, entretissées. Voilà, vous voyez, c'est toujours la problématique du voile, du dévoilement, de ce qui est découvert. Donc il y a tout un texte qui joue beaucoup avec les phylactères, les bannières, les bandes, les rouleaux.
De la Vierge à Vénus, donc c'est aux impressions nouvelles. Patrick Chambon, quel est votre parcours? Puisque je crois que c'est la première fois qu'on se...
Oui, tout à fait.
Qu'on se retrouve.
Alors moi j'ai été aux Arts Décoratifs de Monaco et puis aux Beaux-Arts de Toulouse et de Lorient. Et j'ai fait un petit peu la fac, donc j'ai goûté aux trois formes de l'enseignement artistique. Et si vous voulez, justement, c'est peut-être aussi adressé à l'étudiant que j'étais ou aux étudiants, c'est-à-dire que c'est...
Ma fascinante petite traversée de 5 siècles de l'histoire de la peinture occidentale, c'est ça?
Oui, parce que, non mais les étudiants, j'ai toujours regretté qu'il y ait si peu de travaux théoriques qui passent par l'image. Donc pour un étudiant, mais pas seulement, pour aussi les historiens de l'art, moi je suis très très fasciné par le travail par exemple qu'a fait Godard sur les histoires du cinéma, si vous voulez, ça c'est de l'histoire de l'art pour moi. Mais ça passe par l'image, par le travail de l'image, l'image travaille à une autre vitesse que l'écrit. Donc ça, il faut le mettre en scène, vous voyez les livres que j'ai fait sur Lacan, Wilde, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire avec l'image et le rapport à l'enseignement de l'histoire et de l'histoire de l'art notamment.
Et il doit sans doute y avoir un plaisir de mélanger l'art majeur, la peinture, avec cet art mineur qu'est la bande dessinée.
Ça, tout à fait. Je ne sais pas si c'est très admis par l'univers de la bande dessinée, mais en tout cas, c'est un éditeur justement qui est aussi spécialisé dans la bande dessinée qui m'a fait confiance là. Donc,
Benoît Peters pour le nommer.
Benoît Peters, oui. Mais en fait, j'ai pas eu beaucoup à le convaincre. Je lui ai envoyé mon travail et il avait vu mon travail sur Lacan aussi, qui était aussi un travail graphique sur les séminaires de Lacan. Donc, ayant assisté lui-même à une fois un séminaire, enfin, il est de formation philosophique. Donc, il était sensible justement au rapport entre la théorie et la mise en scène en image de la théorie.
Bon, mais on peut dire que ce livre est tout sauf théorique. Il part de théories, notamment des écrits de Jean-Marie Pantevia, du regard d'un spécialiste comme Daniel Arras, pour arriver à un objet très visuel.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment... j'ai voulu vraiment faire un travail qui mêle le plaisir, puisque c'est quand même un objet de plaisir aussi, et la peinture et le corps dénudé. Donc j'ai voulu effectivement faire que ce soit un livre d'abord extrêmement agréable à regarder et sur lequel on puisse aussi réfléchir, parce que c'est vrai que réfléchir sur les images, c'est souvent un travail parfois peut-être un tout petit peu plus laborieux qu'avec un texte qui se donne comme ça tout de suite.
Allez, on va créer une fiche Patrick Chambon. Qu'est-ce que je mets ? Je mets dessinateur, je mets auteur de bande dessinée, je mets peintre.
Un peu les trois.
Merci d'être passé.
Merci.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée comme toujours par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Delphine Baudet. Et je rappelle que De la Vierge à Vénus, l'ouvrage de Patrick Chambon, est édité par les Impressions Nouvelles. Excellent vendredi, bon week-end, on se retrouve lundi.